RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Évidemment, vous connaissez le principe, tous les jeudis, il y a un cabinet, souvent le cabinet du maître Yodu qu'on embrasse aujourd'hui. C'est le cabinet de Seb Cornette, notre coach trail, le fondateur d'École de Trail, qui est avec moi. Salut Seb.
Salut Benoît.
Ça va, t'es en forme? Tout va bien?
Écoute, ça va pas mal. Je suis dans le sud de la France, dans un lieu qui remet les athlètes en marche, donc ça va pas mal.
Ah bon, excellent. Donc c'est remise en route pour Seb Cornette, quoi. On en est là.
Exactement, bon. On est là.
Magnifique. Je te connais, le moral est toujours au beau fixe, donc j'espère que de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Et sache qu'on a une sacrée histoire à raconter aujourd'hui, donc on va avoir besoin de tes conseils. Je rappelle d'ailleurs le principe à tous ceux qui nous écoutent. Si jamais vous voulez profiter des conseils de Seb ou de Johan Durand pour ceux qui sont coureurs sur route, vous adressez votre candidature à l'adresse mail suivante podcastrmcrunning@gmail.com. Vous racontez votre histoire, votre problématique et vous êtes sélectionné par notre producteur. Comme ça, vous venez, vous avez 40 minutes d'échange avec des coachs de grande qualité. On vous remercie d'ailleurs pour le nombre de candidatures et pour le soutien affiché sur les réseaux sociaux. On y va, Seb, parce qu'on a non pas un, mais deux patients aujourd'hui, Vincent et Damien, qui patientent en salle d'attente. C'est parti. Salut à vous deux. Salut Vincent, salut Damien.
Salut.
Salut.
Soyez les bienvenus, les gars. Ça fait partie de votre histoire, c'est ce qui va être génial à raconter. Vous êtes faux jumeaux, donc vous avez la passion du trail en commun, mais vous êtes faux jumeaux, donc on va pouvoir voir les différences entre vous deux, quoi. Ça va être très sympa à raconter. T'as déjà eu des patients comme ça, toi, Seb?
Non, c'est ce que je disais, je trouve ça trop cool, c'est hyper original et ça va être challengeant, ça, c'est cool.
Ah, ça c'est sûr. Je démarre toujours par cette question, pourquoi vous courez? Est-ce que c'est les mêmes raisons qui vous poussent à courir tous les deux? Qui veut démarrer? Vincent?
Ouais, je peux commencer?
Vas-y.
Moi, on a toujours fait plein de sports avec Vincent, donc on vous racontera ça, et moi j'ai fait beaucoup de judo en fait.
Okay.
Donc, au départ, la course à pied, c'est pas forcément un bon souvenir, parce que quand on court en judo, c'est pour descendre au poids.
Ah bah oui, c'est sûr.
C'est pas top. Après, la deuxième raison, c'était quand j'ai vécu un petit moment à Istanbul et c'était un peu la pratique la plus simple à faire, c'est la course à pied. Donc du coup, c'était plus le truc le plus pratique à placer. Et arrivé à Grenoble, là, j'ai découvert une autre dimension de la course à pied, et en particulier à travers le trail.
T'as un beau terrain de jeu, là.
Et voilà. Et donc du coup, maintenant, c'est vraiment pour les émotions, le plaisir et se sentir vivant, quoi.
Moi, je pense à vos parents. Vu qu'on a des faux jumeaux, on les a pas poussés sur le même sport. Tu faisais quoi, toi, du coup, quand tu étais jeune?
Alors moi, j'ai fait...
du foot.
Ouais, du foot. Non, mais je cherchais le nombre d'années.
Est-ce que tu peux te rapprocher un peu?
Ouais. Donc, j'ai fait ça entre... j'ai dû commencer à 5-6 ans à l'école de foot jusqu'en 3e.
OK.
Donc, une dizaine d'années, je pense, au moins. Et après, j'en ai eu un peu marre. Et en fait, j'ai basculé sur du hand. Donc, plutôt sur des sports co, de ballon.
Okay.
Et j'ai fait ça jusqu'au bac. Après, pour mes études, c'était compliqué. Et j'ai repris pendant quasiment une vingtaine d'années en amateur dans le club de Poissy où j'habite. Là.
Ouais.
Et en fait, il y a eu le Covid. Et du coup, pendant le Covid, les gymnases étaient fermés.
Aïe, aïe, aïe.
Et du coup, au niveau du club, il y a eu des séances de running, en fait, compris le relais, le temps du confinement et des restrictions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec un petit groupe, un petit noyau, où on s'est dit, tiens, finalement, on a poursuivi la course à pied, alors que c'était pas pareil pour moi.
Ouais, c'était pas le sport de base.
La course à pied, c'était l'échauffement, un peu la caisse physique en début de saison pour faire un peu préparer la saison. Le petit groupe s'est monté, et après, voilà, Damien qui a commencé à courir bien avant moi. On a organisé un truc autour de la course à pied en famille, parce que, comme il expliquait, il habite à Grenoble, j'habite en Ile-de-France, nos parents habitaient en Ile-de-France. Donc, le premier truc qu'on a organisé, c'était en 2022, je crois. On a fait les 24 Paris en se disant, on court, on fait la course et après on va manger tous ensemble en famille. Aussi avec,
il y a un peu de compète entre vous ou non? C'était chacun fait sa course et on se retrouve après.
On l'a couru ensemble, sachant qu'il avait un peu d'avance en termes de paye, ses capacités. Donc il m'a souvent attendu sur quasiment toutes les courses qu'on a faites ensemble. Et du coup, moi, j'ai accroché le truc. Puis après, on s'est dit, c'était un rituel tous les ans de se dire, on se fait une course, une bouffe en famille.
Sympa, ouais.
Et puis du coup, l'idée, c'est de diversifier, de tenter une expérience différente. Donc, habitant à Paris, faire une course sur route, c'est quand même plus logique, plus simple.
Ouais.
Et puis, il y a quand même de la forêt derrière Poissy avec un peu de...
Oui, t'es pas dans le pire coin de Paris pour t'entraîner, même si tu veux faire du trail.
Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas essayer un autre format de course. Et on a eu 50 ans l'année dernière.
Okay.
Et donc, du coup, on s'est dit... Moi, je m'étais dit, faut que je fasse un marathon avant 50 ans. Donc, on s'est dit, allez, go, on a pris un dossard. Et après.
Vous avez fait quoi comme marathon ?
On a fait le marathon de Paris.
Là, cette année, là ?
Non, non, l'année dernière.
Ah, l'année dernière, en 2025, ok. Ouais.
Donc, voilà, première.
Ensemble ?
Ouais, ensemble.
Ah, c'est beau.
Donc, okay. Il m'a attendu, pareil.
Ok, d'accord.
Et puis ça, moi, ça m'a plu. Et je me suis dit, et je pousse les curseurs, en disant, j'allonge la distance, qu'on a fait 20K à Semi de Paris.
Ouais.
Après marathon,
ouais.
Bon, une fois qu'on a fait ça sur route, on a un peu poussé tous les curseurs, ouais. Des trucs.
Il reste le 100 km, mais c'est un autre délire.
C'est ça.
Ouais.
Et après le trail, on s'est dit on va faire un truc. Et l'idée c'était de. On est né en novembre et on s'est dit 50 ans, il faut qu'on trouve un trail de 50 km. Donc on a trouvé une course là dans les Pouilles, là, donc une des épreuves du circuit UTMB. Là,
ah, sympa.
Excellent. UTMB, là, donc on a fait un 54 km. Voilà, où il m'a encore attendu parce que j'ai beaucoup souffert.
Ok.
Donc ça fera partie des questions pour Seb, comment mieux gérer. Et voilà. Donc, bon. Moi, je continue mon apprentissage à allonger la distance ou allonger la difficulté.
Quand on est faux jumeau, on a une relation forcément fusionnelle. Vous vous appelez tous les jours ou non, pas forcément.
Non.
C'est vraiment le sport qui vous unit aujourd'hui.
Ouais. Depuis qu'on est gamin, en fait. Hein, parce qu'au-delà du sport qu'on faisait chacun de notre côté, c'était un choix personnel.
Ouais, bien sûr.
On a passé des heures cubes à jouer au tennis l'été.
Au moins, tu as un sparring à chaque fois sur n'importe quel sport.
C'est un peu comme si tu avais ton meilleur pote qui dort dans la chambre d'à côté. Donc, viens, on va faire un tennis. On va faire un basket.
Ouais. Il n'y a jamais eu ce côté, j'ai envie de me démarquer de mon frère.
On l'a fait par la pratique de sport différent. En fait. Et on a suivi chacun notre voie. Juste après, de temps en temps, trouver des trucs en commun où on le faisait ensemble.
Bon. Damien, Vincent, on est ravis de vous accueillir. On va dresser tout de suite vos CV de coureurs avant que Seb puisse s'occuper de vos cas. Allez, c'est parti.
RMC, le CV de coureur.
Donc, 50 ans l'an dernier. Vous n'avez pas encore 51 ans ?
Non.
Ok, c'est pour quand ?
Pas novembre.
Ok, oui, novembre. Alors, le nombre de fois vous courez par semaine, est-ce que c'est pareil pour vous deux ? Non ? Damien, tu cours combien de fois par semaine ?
Hors prépa, je suis à 2-3 fois.
Ok.
Et en prépa, 4 fois.
Ok.
En fait, ça ne varie pas trop.
Et toi ?
Alors moi, je suis plutôt sur 3 fois d'une manière générale parce que j'ai toujours des petits objectifs tout au long de l'année.
Ouais,
donc j'ai une routine. Après, les séances varient en intensité, en durée. Mais mardi, jeudi, dimanche, c'est un peu mon rituel, 52 semaines par an.
Ok. Quelle est la dernière course que vous avez disputée ? Vas-y, Damien. Oh, vas-y, Vincent.
Moi, j'ai fait une des courses de l'éco-trail. Donc
okay.
J'ai fait le 35, là.
Ok.
Donc fin mars.
Trail parisien.
Ouais. Dans la forêt.
Ok.
Mais le plus trail de tous les parcours parce qu'il y a quasiment que de la forêt.
Ouais, exactement.
Aux autres formats où il y a du pari et du bitume.
Exactement. Et toi, Damien, dernière course ?
J'ai essayé de m'en rappeler, mais je crois que c'est le trail dans les Pouilles qu'on a fait.
Ah, toi, t'es pas très dossard, toi. Tu t'entraînes, mais.
En fait, quand je suis arrivé à Grenoble il y a 7-8 ans, j'ai pris plein de dossards parce que j'avais vraiment envie de bouffer de la course.
Ouais.
Et puis maintenant, là, je prends, en fait, ce qui se passe, c'est que je me fixe un objectif. Je fais de l'ultra, en fait.
Donc, ouais.
J'en prends un par an.
Okay.
Et à côté de ça, en fait, j'essaie de prendre quelques dossards quand c'est possible. Et la chance que j'ai à Grenoble, c'est qu'il y a plein de courses.
Ah bah évidemment.
Et c'est pas la peine de... Enfin, pour beaucoup de courses, c'est pas nécessaire de s'inscrire des mois à l'avance.
Ouais.
Et donc, du coup, je les prends plus comme ça en fonction des opportunités.
Ok.
Et donc, voilà.
Et la prochaine course, c'est quoi pour vous deux, alors ?
Moi, j'ai pris un dossard sur l'UT4M, donc à Grenoble,
okay.
Pour vivre une partie de l'expérience et puis en profiter pour aller voir mon frère.
Ok, c'est quand ?
Ça, c'est 19 juillet.
Ok.
Donc, c'est un 40.
D'accord.
Avec 2006 de D+, donc voilà, je continue à pousser mon curseur de...
T'as raison. Bah, ça va plaire à Seb Cornet, tu vas voir. L'évolution progressive, tout ça, ça va lui parler. Toi, Damien, le prochain, tu sais pas
Moi, c'est dimanche. Du coup, j'ai pris un dossard, là, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière.
Ok.
Pour une petite course, comment on les appelle ? Course au saucisson.
Ok.
C'est ça, petite super course, j'adore ce
c'est
genre
d'ambiance.
C'est quoi,
course nature ?
Non, c'est un trail, 28 okay. bornes avec 1008 de dénivelé.
Ok.
Mais voilà, c'est la fête du village, on se retrouve tous après avec un poulet basquez, enfin...
Tout ce qu'on aime, quoi.
Tout ce qu'on aime.
S'il y a la bonne météo.
Ça fait partie
du trail, tout à fait. Comment vous êtes coaché, les gars ? Comment vous allez chercher comme ça des plans d'entraînement ? Est-ce que vous utilisez une appli ? Est-ce que vous avez un coach, un club ? Comment ça marche pour vous, Damien ?
Alors, moi, au départ, j'ai pas d'appli, j'ai pas de coach.
Okay.
Je m'étais fié à des programmes que je trouvais sur Internet.
Okay.
Et surtout pour l'ultra, où je suis un peu plus, je dirais, sérieux sur la prépa que sur les autres courses.
Okay.
J'ai trouvé un programme qui me convient bien sur ce format 4 séances avec toujours, après quand on regarde les programmes, on s'aperçoit que c'est souvent à peu près les mêmes approches.
T'as un socle avec, commun.
En gros, moi, c'est toujours à peu près pareil. C'est le footing de récup du lundi, un fractionné qui peut avoir plusieurs formes, côte, court, long, etc. La semaine. Et le week-end, c'est souvent une double sortie avec une sortie le samedi qu'on appelle de pré-fatigue,
ouais,
et une sortie longue le dimanche. Et ça, en fait, ça marche plutôt bien en termes de prépa.
Mais tu utilises le même plan sur chaque prépa ultra?
Ouais, quasi. Okay. Quasi. Pour les ultras, ouais, quasi. Puisque jusqu'à maintenant, on en parlera tout à l'heure avec Seb, ouais, mais ce n'est pas ce qui me pose problème.
Ok. Vincent, comment tu t'entraînes?
Alors, moi, je suis plutôt digital. Donc, okay, du coup, une appli mobile,
okay,
avec la montre. Donc, du coup, j'ai pas mal essayé l'appli Keep Run Pacer, là, ouais, de Decathlon, parce que ouais, c'était gratuit et ça envoie les programmes sur la montre. Donc, voilà, c'est facile à utiliser.
Très pratique, quoi.
C'est juste que là, ce sera mon quatrième trail. J'en ai fait trois. Et en fait, je suis un peu lassé du programme qui est toujours le même, qui revient, quel que soit le format, la distance. Et du coup, là, je suis en train d'essayer Run Motion Coach. Là.
Ok, très bien. Nos amis, d'ailleurs, on les salue, les frères Romain et Guillaume Adam, avec qui on s'est associés régulièrement et qui sont partenaires de l'UTMB, d'ailleurs.
C'est ça. Bah, c'est aussi pour ça, voilà, que j'avais bien regardé et
t'as
choisi.
Bien ciblé. Eux, ils sont adaptés. Ils font des programmes top pour préparer ces formats-là. Seb, qu'est-ce que tu penses de nos deux faux jumeaux, alors, Damien et Vincent? Ces deux parcours un peu différents, c'est ça qui va être sympa d'analyser, c'est que les problématiques ne sont pas les mêmes. En revanche, il y a cette envie de courir ensemble lorsqu'ils sont sur la même course, sur la même ligne de départ, quoi.
Bah déjà, vraiment, je dois dire un truc, c'est qu'on est quasiment conscrits parce qu'ils sont novembre 75 et je suis de novembre 75, donc
ah,
les gars,
vrai,
on est
50 piges
en même temps, donc du coup, comme quoi, c'est le hasard est très rigolo. Non, plus sérieusement, par rapport à eux deux là, ce qui est vraiment cool, c'est pour ça que je disais que c'était vraiment très original d'avoir des jumeaux et du coup des faux jumeaux, et on le voit dans leur approche du sport, de leur pratique quotidienne et aussi dans leur coaching, puisque Damien fait ça avec quelque chose qui a l'air d'être redondant mais qui lui convient, et Vincent se challenge un peu plus avec du digital et il change parce qu'il en avait un peu marre que ça soit redondant. Donc c'est super riche. Et puis l'autre point qui est quand même important et primordial, c'est qu'ils vivent dans des lieux complètement différents.
Ah,
et
ça,
donc,
oui,
pour moi là, ça c'est du pain béni. J'adore.
Évidemment.
Non, j'adore. C'est ouais, super.
J'ai quand même une question pour Damien avant de démarrer. Damien, quand tu es avec ton frère, tu te poses jamais la question. Tu te dis, quoi qu'il arrive, moi, c'est l'aventure avec mon frère que je veux vivre. Je m'en fous de ma perf. Et,
et
t'en as rien à faire de ta perf perso, quoi. Même s'il est en souffrance, même si parfois...
En fait, au départ, c'est que moi, j'ai commencé par la route. C'est comme si, en fait, il arrivait sur la course à pied un peu plus tard que moi.
Ouais, ouais.
Donc, en fait, il est passé par là où je suis passé avant.
Okay,
moi, j'ai commencé à Istanbul. J'ai commencé par du 10, du 15, dans la route. Et puis après, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup, en fait, j'ai voulu mettre un marathon. Donc, je suis parti dans ces programmes, etc.
Sympa le marathon d'Istanbul, tu l'as fait?
C'est pas le plus sympa.
Ah, c'est pas le plus sympa.
Il y a une partie qui est très sympa, parce qu'on part côté Asie et on arrive côté Europe.
Ok.
Je crois que c'est le seul marathon qui se passe sur deux continents.
C'est bon, ça.
Par contre, arriver sur la partie européenne, c'est un aller-retour à l'aéroport qui fait genre 15 bandes dans un sens, 15 bandes dans l'autre sens. Et mentalement, c'est compliqué.
Ouais.
Et donc, pour un premier marathon, c'est compliqué. Et surtout pour moi, parce qu'en fait, trois semaines avant, j'ai un copain là-bas qui m'a dit « Oh, mais si tu veux, moi, je me suis inscrit aussi sur une autre course. Tu connais pas bien, ça s'appelle le trail. Tu devrais essayer, viens avec moi. » Donc, il m'a embarqué trois semaines avant mon premier marathon d'Istanbul sur un trail en Cappadoce.
Okay.
Et je crois que c'est ce jour-là où je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait.
Ah oui, là où t'as compris.
Parce qu'en termes d'environnement, la Cappadoce, c'est juste un terrain de jeu. C'est,
ouais, c'est un super trail. La Cappadoce, c'est vraiment magnifique. Excuse-moi, je te coupe, Damien, mais c'est vraiment un lieu avec des passages dans les maisons troglodytes.
Enfin,
vraiment, c'est super beau. Ouais, une bonne publicité pour ce super trail,
c'est
un peu méconnu. Hein.
C'est la chance d'avoir des paysages variés, des courses complètement différentes les unes des autres. C'est l'avantage du trail, c'est sûr.
C'est ça. Ouais. Et donc du coup, j'ai un peu perdu le fil
de
ta
question. C'est ça, tu me racontais, moi je te parlais des courses que tu partages
avec
ton
frère. Donc après, au bout d'un moment, surtout suite à cette course, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc j'ai continué un petit peu le marathon avec l'idée de progresser en termes de chrono, mais très vite, et surtout en arrivant à Grenoble, je me suis quasiment exclusivement consacré au trail. Et c'est là où, du coup, Vincent, il est dans un chemin un peu similaire. Donc, par rapport à ta question dont je me rappelle à l'instant, en fait, aujourd'hui, comme je l'accompagne, moi, mon kiff, mon plaisir, c'est vraiment de faire les choses ensemble et de voir qu'il arrive à ses objectifs. Le marathon de Paris, c'était émotionnellement, je crois que c'est un des pics de mon moment sportif, même perso, hein.
Et des moments que vous avez vécu en commun, peut-être.
Ah, c'était magnifique. Ouais, mais vraiment.
Le marathon, c'est toujours une émotion particulière. Mais alors, le partager avec son frère, faux jumeau en plus.
Voilà, qui avait un objectif de temps, qu'il a réussi.
Tu l'as atteint, bravo.
Tu
l'as fait en combien de temps?
J'ai fait 3h31.
Ah, bravo. Bon, félicitations.
Ouais.
Ah
ouais, merci. Chapeau. C'était un peu dur sur la fin, comme plein de gens.
Ah, bah ouais, c'est le marathon de Paris. Ça, c'est sûr. Bon, bah bravo. Vraiment des histoires intéressantes. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question à Seb? Est-ce que vos questions sont communes ou est-ce qu'en fonction de vos. Justement.
Ah, bah non.
Il y a Damien qui me dit non, justement, on profite du cabinet, comme ça, des questions différentes. Qui veut commencer? Vincent, est-ce que
moi, je peux commencer. Enfin, après, j'ai pas le CV de trailer de Damien, donc je suis encore dans l'apprentissage. Ouais. Donc là, ce sera mon quatrième trail. J'avais commencé par les Rois Maudits, c'est vers Rouen, là, sur les Boucs de Seine. D'ailleurs, c'est assez sympa, c'est sur les coteaux. Donc ça, c'était mon premier trail. Et je crois qu'il y avait 27 km et 1200 de D+, ou que de petites côtes bien fortes avec de la relance. Je suis arrivé, j'ai été cuit.
Ouais.
Je crampais de partout et j'étais content d'avoir pris que 27, qui était le plus petit format de la compétition. Ouais. Mais j'étais ressorti ravi. Il y avait eu un super temps, super conditions. Enfin, vraiment le.
T'étais piqué au trail,
c'est ça.
Ouais.
Et après, on s'est dit voilà, on voudrait faire le trail des Pouilles en novembre.
Mm-hmm.
Et là, par contre, ça a été dur, quoi. Donc, je pense que comme tout trailer débutant, on part trop vite et. Voilà, j'ai pas gardé assez de fraîcheur pour finir et le trail faisait 54. On a quasiment mangé tout le D+, il y avait 800 ou 900 sur les 30 premiers. Et du 30 au 54, j'ai alterné marche-course. Parce
calvaire.
Que calvaire, non, parce qu'on était, il m'a pas abandonné. On l'a fait jusqu'au bout et c'était le deal de toute façon.
Ouais, bien sûr.
Les courses qu'on fait, on dit, on les démarre ensemble, on les termine ensemble. Bien c'est sûr. Un peu le challenge et le deal. Mais je suis reparti en me disant c'est un bon apprentissage et comment j'arrive à mieux gérer l'effort, mieux doser parce que du coup avec les variations de terrain etc c'est pas aussi linéaire qu'un marathon où on est normalement à allure constante du 1er au 42.
Donc ce que tu veux demander à Seb, c'est plus de la pratique pure ou c'est de l'évolution entre guillemets de carrière dans le trail? C'est comment augmenter crescendo pour progresser?
C'est un peu les deux, c'est de voir ça serait quoi ces conseils pour mieux vivre les courses et mieux les finir. Et puis voilà, comment lui verrait la progressivité? Est-ce que après l'UT4M.
Parce que vous avez un rêve en commun, c'est de faire l'UTMB, on peut le dire d'ailleurs.
Sur les mêmes courses,
c'est ça,
parce que
à l'événement.
Ouais.
Parce que Damien qui a.
Toi, tu ne vois pas te lancer sur le 100 miles, quoi.
Ah non.
Ouais.
Non.
Alors que toi, oui.
Moi, ça fait à peu près 7 ans que je m'inscris et 7 ans que je me fais recaler. J'ai fait la TDS une fois et demie, j'ai envie de dire.
Ah bravo, tu l'as bouclé une fois.
Ouais, l'autre fois, c'est l'année, je ne sais pas si tu te rappelles.
La neige courant.
Non, il y a eu un décès, en fait,
oui,
malheureusement.
Ouais, je m'en
rappelle. Et donc, du coup, c'est pour ça que
j'ai... Il y a deux ans.
Non, un peu plus, c'était en 2022.
Trois ans.
Ou un truc comme ça.
Ah ouais.
Ouais.
T'as raison. Et
donc, du coup, il m'avait recalé à l'époque, il m'avait replacé sur la TDS. Et donc, mais moi, tous les ans, je m'inscris et tous les ans, au mois de janvier, je crois que je m'en rapproche et en fait, à chaque fois, c'est la loose. Quoi.
Ok. Alors, les questions pratiques.
Après, si je peux me permettre, Damien, la TDS est quand même la plus belle.
Ah, bah, tu vois.
C'est la plus belle de toutes les courses de l'UTMB. Non, vraiment, la plus belle, la plus technique, la plus sauvage. Donc, vraiment, si tu as réussi, enfin, tu vois, peut-être pour un peu pondérer ta déception, mais je comprends parce que l'UTMB reste le Graal aux yeux de tous les ultra-trailers. Mais la TDS est tellement belle. Et puis l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de tirage au sort, donc du coup,
c'est
clair.
C'est sûr, c'est la problématique UTMB. Les questions pratiques, les gars, Vincent, tu veux des questions concrètes pour que Seb t'apporte sa plus-value?
Ça serait d'avoir un peu de conseils sur, sur la gestion de course, en fait, sur l'événement, là, s'il y a des types dont je peux bénéficier. Et après, là où Damien lui vise le 100 miles, moi, on s'était inscrits tous les deux au tirage au sort. Moi, j'avais tenté l'OCC, un peu plus modeste parce que même si j'avais l'index et les stones pour la CCC, 100 km, ça me semble un peu irréaliste. Et la deuxième question, c'est j'ai 50 ans, j'ai commencé sur le tard. Je m'interroge jusqu'où je peux raisonnablement imaginer pousser les curseurs, sachant que j'habite en Île-de-France et que du coup, le terrain d'entraînement n'est pas forcément le plus propice pour travailler.
Ah Seb, est-ce que là j'ai un facteur limitant?
Ça j'adore. J'adore. C'est bien qu'on commence par Vincent parce qu'effectivement, désolé Vincent, mais je vais un peu te contredire. En fait, il y a pas de. Évidemment, on pourrait se dire instinctivement, Damien habite à à Grenoble, entouré de quatre massifs légendaires et dans lequel tous les week-ends il peut aller changer de massif. Et il aurait certainement, entre guillemets, en tout cas, un avantage. Moi, je pondère cet avantage parce que peut-être que, et je vais pas parler de Damien personnellement, mais je vais parler du trailer montagnard, bah, il aurait tendance à en faire un peu trop et faire un peu trop de spécifique toute l'année. Et du coup, en fait, la progression qui pourrait être très rapide chez le montagnard, ou en tout cas celui qui vit dans un milieu montagnard, ne serait pas celle qui serait la plus durable. Je m'explique. C'est-à-dire que, en fait, on sait aujourd'hui qu'une progression qui est trop rapide, donc quand tu fais trop de spécifiques, tu vas vite progresser, mais tu vas aussi, donc, du coup, vite stagner, voire il va falloir que tu mettes un tout petit peu plus de charge pour réussir à progresser, donc avec un risque de blessure qui est un peu plus important. Donc, moi, aujourd'hui, je rappelle quand même une chose, c'est que 80% des trailers, ils vivent pas en montagne. Et si, justement, il fallait être montagnard pour être performant, même ne serait-ce que performant, ben, ça se saurait. Ben, évidemment, aujourd'hui, on est un petit peu repris par les réseaux sociaux et on voit beaucoup d'athlètes, voire quasiment tous, hein, de élites qui vivent en montagne parce qu'ils sont sur leur terrain de jeu. Cependant, ben, moi, je reste persuadé avec la méthode école de trail que tu peux être performant et performant. Je le rappelle à chaque fois, mais je le rappellerai tout le temps, c'est que la performance en vieux français, dans son étymologie, ça veut dire épanouissement. Donc en fait, à partir du moment où tu mets un dossard, que ce soit pour le partager comme vous le faites, d'ailleurs moi je vous félicite, j'adore l'état d'esprit dans lequel vous faites ça ensemble, je trouve ça trop beau, vous voulez être performant, Damien parce qu'il a envie de vivre un truc émotionnel avec son frangin, et puis Vincent parce que son frangin l'a challengé sur le trail et qu'il se dit bordel, je vais quand même réussir à faire avec lui, vous voyez, donc la performance elle est là. Et donc du coup mon premier conseil déjà Vincent, c'est de en fonction des séances que tu as sur l'appli avec laquelle tu bosses, c'est de rajouter des séances type école de trail où tu vas mettre ton fractionné avec de la pré-fatigue, des exercices de pré-fatigue. Alors attention cependant, hein, si pour l'instant tu n'en as jamais fait, il faut commencer par des exercices plutôt basiques. Si on parle de membres inférieurs, tu vas commencer avec la chaise sans mettre d'intensité, mais plutôt un travail technique de montée. Et il n'y a pas besoin d'avoir une montée qui fasse 500 mètres de dénivelé, hein, même une petite montée dans laquelle tes séances de fractionné, à mon sens, à partir de la semaine prochaine, il faudrait qu'elles aient toujours des exercices de renforcement. Alors en commençant par du renforcement simple, puis après du renforcement concentrique, donc par exemple la chaise en isométrique, puis la semaine d'après, ou deux semaines après, tu commences à mettre des squats, puis après tu mets des squat jumps. Mais ça avec une progressivité bien plus longue que celle que tu imagines, je pense. Et puis dans tes sorties longues, les séances que nous on appelle séances simulation, qui est tu pars dans ton intensité de sortie longue, mais tu t'arrêtes toutes les 8, 9 ou 10 minutes où tu vas faire des exercices justement de renforcement à nouveau pour permettre de simuler, alors je mets des guillemets à ça, simuler le fait que tu aies une absence, ou en tout cas, et comme l'a dit Ben, franchement, l'avantage à Poissy quand même, c'est qu'il y a de quoi faire. C'est quand même possible de.
Ouais, dans la forêt.
Ouais, bien sûr.
Et donc, du coup, ce type de séance-là en pré-fatigue, vraiment les séances école de trail, tu pourrais d'abord les faire en montée, parce que j'ai entendu que c'était ce qui posait souci, mais en fait c'est pas la montée qui pose souci, désolé hein, c'est surtout en fait la phase excentrique de la descente qui fait que derrière tu peux pas remonter.
Je te raconte la scène. C'est bon, ouais. Ça
et en fait on a l'impression, et le trailer a l'impression que c'est les montées qu'il a besoin de travailler, mais en fait en vrai ce qu'il a besoin de travailler c'est les descentes, parce qu'à partir du moment où tu es fort en descente, ben vu que c'est là avec la phase excentrique qu'on développe le plus de force, ben, tu deviens aussi plus fort en montée. Donc en fait toutes ces séances là, moi le conseil déjà dans ta pratique, c'est de dire toi tu dis que tu t'entraînes 4 fois, et ben au moins sur 2 séances mettre une séance type école de trail, donc tes séances de fractionnés que tu fais, ben tu mets à l'intérieur. Alors du coup, si tu as, je dis n'importe quoi, 10 fois une minute, ben tu vas plus en faire que 8 ou 7, mais ta récupération devient du renforcement. Tu vois, c'est ça. Et puis ta sortie longue, tu la fais en mode séance simulation.
Ouais, tu savais où tu mettais les pieds, hein, chez l'apôtre du renforcement musculaire, donc au moins tu es servi. voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que est-ce que tu as déjà pensé à tout ça? Est-ce que le renfort musculaire fait partie de ton entraînement déjà?
Alors, dans les plans que j'avais sur l'appli Keep Run, il y avait ces séances de fractionner avec de la chaise, okay, avant de taper la côte, juste avant, en fractionner. Okay.
Tu le faisais ?
Ouais. Alors, ouais. Juste coupe, surtout pas, justement, je suis désolé pour l'application, mais il ne faut surtout pas faire de l'isométrique et de la haute intensité. Ça, il ne faut pas faire. Ça, il faut pas faire. Tu peux faire de la chaise et derrière, tu te mets en bas de la côte et tu fais un travail technique de cadence, tu fais un travail technique d'appui. Ça, oui, mais en fait, l'isométrique et la haute intensité, c'est deux contractions musculaires qui sont opposées. Et le risque de contraction musculaire, voire de blessure, est très important. Donc, attention à ce type de séance-là.
Bon, déjà.
Ouais, malheureusement, c'est très répandu.
Donc là, j'ai basculé là, sur Run Motion Coach. Il y a des séances, mais spécifiques de renfort, en fait, avec des exercices sur les ischio, abdos, enfin voilà.
C'est ludique
Là, j'ai démarré le programme la semaine dernière. Okay. Donc, il n'y avait pas de renfort. Mais là, il y en a une demain, là, par exemple.
Okay.
Et il y a des petites vidéos pour essayer d'avoir la bonne posture. Parce que quand on fait ça en autonomie, essayer de faire ça avec le bon geste, en fait.
Bien sûr. Pour que ce soit efficace. Quand on vit comme Damien à Grenoble, est-ce que le renfort est tout aussi important ou est-ce que c'est différent, vu qu'il a un terrain de jeu naturel?
Justement, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, Vincent, lui, je lui conseille de faire ça pendant ses séances. Et si j'ai entendu, avant que ça coupe, qu'il faisait aussi des séances dans l'application, il y avait aussi des séances de renforcement, ça, je suis super content. Mm-hmm. Mais Damien, je vais lui dire, toi, tu as intérêt à faire pas du renforcement, mais de la musculation. Parce que, et peut-être d'être moins spécifique que ce que tu l'es habituellement. Ouais, je sais que ça va pas lui faire plaisir, je ne vois pas sa tête, mais je l'imagine d'ici. Ah ouais. parce que, en fait, c'est là où j'aime parler avec les montagnards, c'est de leur dire, et d'ailleurs j'ai des athlètes qui sont montagnards, et je vais pas faire de digression par rapport au temps où ils ont commencé, Vincent disait qu'il a commencé tard et jusqu'à quand il peut aller, je prendrai un exemple de quelqu'un qui est très connu et qui est encore performant, mais tout ça pour dire, oui, les montagnards, je leur conseille, justement, comme vous avez la chance de vivre dans le milieu dans lequel vous allez évoluer, perdez votre temps pour aller une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours, en salle de muscu. En plus, à Grenoble, je sais qu'il y en a quelques-unes puisque ma fille fait ses études là-bas. Et il y a de quoi faire. ça serait mon conseil numéro 1. Et numéro 2, ça serait, parce qu'on n'en a pas parlé, je sais pas si les garçons en font, l'entraînement croisé, en tout cas à Damien, vu où il habite. C'est peut-être plus agréable d'aller faire le col de Porte, le col de Vence, tous ces petits cols-là qui seraient intéressants.
Tu fais du vélo, quoi ?
Alors, non. Je me dis, je ferai du vélo quand je pourrai plus courir. Je sais que ce n'est pas une bonne réponse, mais aujourd'hui, en plus, quand on fait de l'ultra, c'est pour ça que j'en fais qu'un par an, c'est physiquement, et puis au niveau du temps que ça prend, ça prend beaucoup de temps.
Je ne vous ai pas demandé vos métiers respectifs, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tous les deux ?
Moi, je travaille dans une boîte grenobloise, je travaille dans l'industrie et je suis en charge de toute la partie éco-conception, business, développement durable, etc.
Ça prend beaucoup de temps ?
Ouais, parce que je m'investis beaucoup, en fait.
Okay.
Donc des grosses journées de travail. Des grosses journées. Avant, je me déplaçais aussi beaucoup, maintenant, c'est un peu moins le cas.
Okay.
Mais la chance que j'ai, c'est que je peux placer 2 séances par semaine le midi.
D'accord.
Et sur mes 3-4 séances, il y en a 2 que je peux passer entre midi week-end. et 2 le samedi et le dimanche.
Okay.
Donc j'arrive à le placer.
Damien, si je peux t'interrompre quand tu dis je suis désolé, je vais aller à l'encontre de ce que tu en tout cas penses, c'est en fait, moi je veux pas te rajouter du temps, tu vois, sur les 4 séances que tu fais, tu vois, quand tu parlais, moi je trouve ça très intéressant d'avoir de faire un week-end un peu chargé, mais justement t'as pré-fatigue, j'inverserais, je ferais du vélo un petit peu long pour que justement tu attaques le lendemain avec de la pré-fatigue, ou voire tu fais ta sortie longue en trail le samedi, puis tu mets quand même du long, mais du coup tu te préserves. Et justement, toi tu disais, je ferais du vélo quand j'aurais pu courir, moi justement je te dis, fais du vélo pour que tu cours le plus longtemps possible. Et quand je dis plus longtemps possible, c'est le plus longtemps possible aussi dans le temps, dans 20 ans, moi j'ai envie que tu cours. Et au contraire, c'est je comprends cette croyance, mais en vrai, En mettant du vélo, en plus, t'as vraiment dans une belle région, ça te permettrait d'être plus performant. Là, on parle de performance chronométrique, ok ? Mais ça te permettrait aussi d'être performant et donc de durer plus longtemps. Vraiment, aujourd'hui, si on sait un truc sur l'entraînement croisé, c'est que ça permet, un, d'être préventif de la blessure, et deux, de se préserver, et donc, du coup, d'être encore un coureur en bonne santé à 80 ans.
La clé, c'est l'envie. Est-ce que tu aurais l'envie de rouler ?
Ah oui, ça c'est sûr.
Non, c'est peut-être ça qui me freine aujourd'hui. Ouais. Je n'ai pas forcément l'envie, le vélo, le partage de la route, le matériel. Moi, ce que j'aime dans la course à pied, et surtout en habitant à Grenoble, c'est que je pars de chez moi, j'habite centre-ville, et je suis dans la montagne au bout d'un quart d'heure, une demi-heure.
Ouais, ça c'est sûr.
Et ce truc-là, en fait, avec un vélo, tout de suite, c'est plus compliqué. Donc, j'entends tes conseils, Seb, mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'y vois pas forcément. Et puis en termes de temps aussi. Je suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'en vélo, pour avoir de la pré-fatigue, il faut rouler plus longtemps que ce qu'on fait en courant.
Pareil, non, non, ça c'est une idée reçue. Ah ouais, je t'envoie une séance qui va durer une heure et demie, je peux te dire. Ah
ouais, tu peux te faire mal.
Non, non, ça dépend. Ah, en fait, ça dépend de l'intensité. Ah, comme je te disais, comme t'es, tu vois, tu parles du col de porte et je t'en parle parce que ma fille l'a fait cette semaine et elle m'a envoyé un message et je peux te dire qu'il n'est pas très très long. Enfin, il peut durer un petit peu de temps, mais si tu fais un travail spécifique dedans, crois-moi, quand tu redescends, tes quadriceps, ils seront très contents de se reposer et il n'y a pas besoin. Effectivement, en fait, et là, tu dis, enfin, Ben a dit un truc très, très juste, hein, et d'ailleurs, je le rejoins complètement. Si tu n'as pas l'envie, moi, je ne vais pas te forcer à faire ça. Oui. Là, c'est un conseil vraiment bienveillant et aussi dans la recherche de performance.
Et pour tous ceux qui s'identifieraient à ton profil aussi. Ouais, bien sûr.
Ouais. Exactement. Mais, mais cependant, vraiment aussi, on doit casser une idée reçue. Il faut que je passe 5 heures ou 6 heures sur le vélo parce que, oui, peut-être qu'à un moment donné, dans un week-end choc, tu aurais peut-être besoin de ça, mais ça serait exceptionnel. Mais en vrai, dans une partie non spécifique, non, si tu as l'habitude de faire 2 sorties dans le week-end, si tu fais une séance d'endurance de force ou même d'explosivité en côte, là, j'imagine tu vas de temps en temps à la Bastille. À Bastille, là, je veux dire, bah, là, tu as vu, il n'est pas très très long, pas très très longue la route. Il y aurait de quoi faire, t'exposer les jambes en faisant 2 montées, et puis au final, tu n'aurais pas passé plus de temps. Mais effectivement, si on parle de développement de la filière aérobie, bah, c'est quand même mieux de passer un petit peu de temps. Mais là, juste en pré-fatigue, hein, si tu me parles juste de pré-fatigue, vraiment, il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures sur le vélo.
Vincent, tu fais quoi dans la vie, toi ?
Alors, moi, je travaille dans l'informatique. Okay. Alors, je ne sais pas si on peut citer des noms.
Tu peux, pourquoi pas.
Alors, moi, je travaille chez Arval, en fait, ça fait partie de BNP Paribas, et c'est une entreprise qui fait du leasing de voitures, en fait.
Ok, très bien.
Il y a un secteur un peu en vogue en ce moment, vu le prix des voitures. Ouais. Et donc, je suis manager d'une équipe IT sur tout ce qui est sécurité du système d'information.
D'accord. Et ça veut dire que tu as des horaires de bureau ?
Ouais.
Ok.
Par exception, on peut avoir des astreintes ou des opérations en horaire décalé, mais c'est à la marge.
Ok. T'as pas de contraintes physiques sur ton boulot ?
Non.
Ok.
Ah non, c'est bureau, PC, bureau, chaise.
Ok. Bon.
Mais par contre, je sais pas si ça compte dans l'entraînement porté. Je travaille à Arveil, donc du coup.
Tu vas à vélo.
Ouais. Mais en vélo électrique, donc du coup.
Ouais, mais c'est quand même du vélo. Non, mais c'est bien que t'en parles. Et franchement, ça c'est du vélo taf. On le néglige souvent dans plans d'entraînement, mais vraiment très honnêtement.
C'est ça,
même si c'est du vélo électrique, ça t'aide à aller un tout petit peu plus vite, mais il faut quand même appuyer sur les pédales. Moi, j'insiste sur ce point. Souvent, c'est un peu vu comme quelque chose de pas vraiment sportif. Ben, si, ça peut l'être. Déjà, mets-toi à la vitesse la plus basse et puis ça va t'aider. Et tu pourrais très bien, justement, ça peut faire partie de quelque chose. Tu parlais aussi tout à l'heure que vous allez aller sur un peu plus long. Ça va t'aider aussi à justement intégrer ça dans ton entraînement. Tu pourrais très bien faire l'aller. Pour pas être trop transpirant en arrivant au boulot, puis au retour, ben tu te mets un peu plus entre guillemets carton, ça pourrait être...
C'est ça.
Ouais, carrément. Joindre l'utile à l'agréable, je pense que c'est un vrai plus.
Damien, qu'est-ce que tu avais comme problématique à soumettre à Seb, toi, alors ?
Ce sera pas un scoop. Moi, mon problème, c'est l'alimentation sur les ultras.
Ok.
Je disais que le programme que j'ai trouvé, il me convenait bien, c'est-à-dire qu'au niveau crampes, articulations.
T'as l'impression que physiquement, t'arrives prêt
Je suis bien. Okay. Mais souvent, à un moment donné, ce qui va me bloquer, c'est que j'arrive plus à manger.
Ok. Tu testes à l'entraînement ? Tu testes beaucoup ?
Ouais, j'essaye des trucs à l'entraînement et ça se passe plutôt bien à l'entraînement, même sur, quand j'essaye sur des sorties longues. J'ai peut-être une piste en fait. C'est qu'en fait, j'ai toujours à peu près le même phénomène qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, début, sur un 100 miles, on va dire, les 50 premiers miles, ça va. 50 premiers kilomètres, ça va. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, ça passe plus. Et là, je suis quasiment pendant 50, 60, 70 bornes, limite hypo. Et là, j'essaye de manger des trucs. Alors là, le dernier ultra que j'ai fait, ce qui marchait bien, c'était les bonbons acidulés et les compotes. Donc, pendant 60 km, j'étais là-dessus. Mais j'étais vraiment bordure hypo.
Tu prends que du sucre ?
Ouais, c'est le seul truc qui passe. Tous les autres trucs...
Tu manges jamais salé sur
la question de Ben.
Je préférerais, mais à un moment donné, il n'y a plus que ça qui passe, les compotes et
les bonbons. Mais quand tu pars au départ, dans ton plan de nutrition, tu prévois du salé, du sucré, un peu de tout.
Par contre, le truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ça dure et c'est vraiment compliqué à gérer parce que je suis vraiment limite.
Ouais.
Mais par contre, à peu près à dernier tiers ou dernier quart de la course, il y a tout qui revient d'un coup. En fait, j'ai l'appétit qui revient.
C'est fou ça.
Non, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient.
Le même scénario qui se répète
c'est
à chaque
fois. Et quand ça revient, par contre, là, c'est jouissif parce qu'en fait, comme je me suis économisé par rapport au manque de sucre. Du coup, je suis encore frais au niveau des jambes, au niveau musculaire, etc. Et donc, souvent, mes ultras, je les finis super fort, super bien. Donc, la fin de course, elle est souvent géniale. Parce qu'en plus, c'est là où beaucoup de gens commencent à exploser. Donc, on est là.
Tu dois ramasser les morts.
Et puis, on est avec tout ce qui se passe au niveau cerveau et tout. On est, enfin, bref, c'est des moments extraordinaires. C'est juste la petite partie, en fait, qui dure à peu près un tiers de la course où là, ça coupe. Et je me posais la question, est-ce que c'est pas... Parce que je me mets beaucoup de... Je suis un anxieux et donc je me fais beaucoup... Je me mets beaucoup de pression. Et chez moi, quand pression et manque d'appétit sont corrélés directement.
Dès que tu es un peu tendu, tu n'as plus du tout d'appétit, tu as du mal à manger.
Donc je ne sais pas. Voilà, c'est, ça, c'est mon problème. C'est, j'aimerais pouvoir m'alimenter tout le long de la course.
Seb.
En fait, c'est rigolo parce que moi, instinctivement, je te dirais pourquoi tu veux changer puisque tu finis fort. Ça serait déjà le premier point. Mais c'est le premier point avec un sourire en coin, d'accord. Le deuxième point, c'est que ce que moi j'entends, en plus que tu dis que tu es anxieux, il faut savoir que donc, les problèmes digestifs et donc, sont la première cause d'abandon sur ultra. Ça, il faut l'avoir en tête. Mais souvent, ce qu'on oublie de dire quand on dit ça, c'est qu'en fait, pourquoi il y a des problèmes digestifs, c'est souvent parce que les gens sont partis trop vite. C'est-à-dire qu'il y a un tel stress sur le système digestif. Parce qu'on dit, je l'ai essayé à l'entraînement. Ouais, mais à l'entraînement, tu étais dans ta bonne intensité. Puis là, le jour de la course, tu es au départ, à Cham, là, il y a la musique, il y a le super discours de notre Ludo Collet qui nous fait tout chialer. Tout le monde part et arrive aux ouches à 17 km/h. Et du coup, on se dit, putain, je comprends pas, 50 km, ça se passe bien. Puis après, un peu moins bien. Oui, tu as mis un stress si important sur ton organisme que du coup, tu n'arrives plus à manger. Alors, ce qui est bien pour toi, c'est que du coup, toi, tu arrives à passer outre et tu es à la limite à chaque fois et tu finis fort. Donc, c'est quand même plutôt positif parce que ramasser les morts, tu en as parlé. Aujourd'hui, on battra des records sur les ultras, pas par la performance, la préparation physique, pas par l'entraînement, mais par la préparation mentale. Et c'est vraiment là, on voit que toi, ça te porte. Et certainement qu'en plus, il y a ça, tu sais, ramasser tout le monde. Même si en fait tu vas pas plus vite que les autres, c'est juste les autres qui décélèrent beaucoup plus que toi. Ça doit te porter. Donc ça c'est un premier point. Mais si tu veux peut-être lisser ton effort, le conseil. Mais il faudrait que j'analyse complètement toutes tes courses. Mais en tout cas instinctivement de ce que tu me racontes, le conseil ça serait de te dire est-ce que tu partirais pas un tout petit peu moins fort. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Non, mais je te jure, je pars cool. Non. Rassure-toi, tout le monde part trop vite.
Non, mais c'est vrai, c'est quoi ton conseil de course? Habituellement sur un ultra. Tu t'es reconnu dans le discours de Seb?
De partir fort?
Partir un peu vite?
C'est compliqué en fait. Au début, je dirais que comme beaucoup, je partais trop fort. Après, souvent, il se passe des trucs sur les ultras ou sur le trail en général. C'est que si tu pars trop doucement, tu te retrouves dans le peloton. Et pour peu que tu aies un single qui arrive très tôt, tu vas te retrouver dans les bouchons. Donc parfois, tactiquement, c'est bien de mettre un petit coup au départ pour au moins passer le gros du peloton.
Ça, c'est vraiment la crainte de tous. Hein, se bloquer et perdre du temps.
20 minutes alors que tu n'as pas besoin de repos, d'être bloqué sur un single. Mais je dirais que ce n'est pas trop ça, mais je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais essayer.
Est-ce qu'avec l'entraînement, tu as détecté une intolérance? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un goût qui ne passe plus? Non, t'as tout testé, compote, gel.
En fait, c'est avec le temps que ça passe plus.
C'est vraiment le.
Au bout d'un moment, ça passe plus parce que c'est pas le fait de pas avoir uniquement d'appétit, c'est que je vais me forcer à manger. Et je vais faire 100 mètres après, ça va ressortir en fait.
Donc c'est... On fait du rejet carrément.
Carrément. C'est ça le truc.
Après, il y a peut-être justement souvent quand on parle de plan nutritionnel. Déjà, je renvoie aux travaux d'Anthony Berthoud et de sa compétence parce que c'est celui on a la chance en France d'avoir le meilleur, donc et il a beaucoup écrit dessus. Mais la problématique d'un plan nutritionnel, c'est que par exemple, je sais pas comment tu bois, mais tu sais, s'obliger à boire, par exemple, je dis à peu près ce que je vois des fois passer et qui me fait un peu bondir. Bois 100 ml toutes les 20 minutes. En fait, il y a un truc qui est fort dans le corps, c'est que si t'as pas soif, faut pas boire. Et pendant longtemps, on a dit, quelle que soit la discipline, bois avant d'avoir soif. Et donc, du coup, dans mon plan nutritionnel, il y a marqué que je dois boire tant de millilitres à tant de minutes. Ça, aujourd'hui, on y revient. Alors, évidemment, il faut faire des tests, mais on y revient. Et donc, du coup, peut-être que quand on suit un petit peu trop... Là, je te parle de liquide, parce que ce que tu dis, ça évoque quand même beaucoup ça. faire attention à ça, tu vois, pas non plus se surhydrater, pas vouloir, parce que en fait après le tube digestif il est sollicité parce qu'il y a un stress, parce qu'il doit ingérer tes aliments ou ton liquide, mais il est aussi ballonné si en plus tu bois un peu trop et que tu n'évacues pas. Donc du coup il y a aussi cette croyance hein, sur c'est bien d'avoir un plan nutritionnel, encore faut-il que je boive uniquement quand je bois, pardon, quand j'ai soif et pas j'anticipe justement ça. Donc ça c'est peut-être je sais pas comment tu le fais hein, mais moi je te parle à toi et puis je parle à tout le monde en même temps.
Bah moi c'est je suis surpris par ce que tu dis, c'est le fait qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, c'est vraiment hyper contre-intuitif par rapport à ce
que on a toujours eu le discours inverse, c'est vrai.
Et donc moi j'avais du coup, pour répondre à la question, moi j'avais l'impression de ne pas assez boire du coup. Si on part, je ne sais pas, moi je bois entre un demi-litre par heure, quoi. Beaucoup plus quoi.
Ouais. Et quand on regarde. Et au niveau sudation, toi t'es comment aussi?
Je transpire beaucoup.
Ok, bon, ouais.
Donc,
tu bois de l'eau simple ou tu bois des électrolytes ou ce genre de choses, la boisson d'effort?
Souvent je rajoute des électrolytes, surtout quand mes ultras c'est souvent l'été. Donc du coup là je rajoute des électrolytes, mais je rajoute pas d'apport glucidique dans la boisson en fait, c'est que des électrolytes. Donc je me dis c'est peut-être aussi un truc à essayer, c'est de faire boisson sport électrolyte en même temps.
Oui, ça te permet
en fait souvent
permet
d'avoir
manger, peut-être.
Exactement. Ouais.
Souvent, ce qui est intéressant dans l'hydratation, c'est d'avoir, si tu as deux flasques, c'est d'avoir pas les deux mêmes. Tu vois, si tu as des électrolytes, moi je suis un peu partagé sur les électrolytes, mais ce n'est pas le débat là. Mais en tout cas, avoir une boisson, une flasque d'eau pure pour trincer la bouche, parce que déjà ça pourrait être aussi intéressant. Tu vois, quand on parle d'hydratation, des fois, juste se rincer la bouche et mentir au cerveau, ça pourrait être intéressant. Et des fois, même se rincer la bouche avec de l'eau salée, ça peut être super intéressant. À nouveau, Anthony Berthou pourrait être beaucoup plus calé là sur ce point-là, mais ça c'est un bon point. Et pas avoir toujours la même boisson dans son hydratation,
c'est-à-dire que
réussir à alterner.
Aussi, hein.
Mais exactement. Et en tout cas, oui, si tu mets pas de, après, si évidemment tu prends un gel et que du coup tu as déjà ton apport glucidique comme ça, mais quand même avoir une eau un peu avec des apports glucidiques, ça pourrait être peut-être un point à creuser d'après ce que tu nous dis. Mais quand même, j'insiste sur un point. Quoi qu'il arrive, on part tous trop vite. Et l'excuse, je mets des guillemets à ça, hein, l'excuse du single qui va arriver, il y a quand même peu de courses. Alors là, la Maxi Race est un mauvais exemple, même si on changeait de... Mais sinon, à part... En tout cas, sur l'ultra, où tu aurais un single qui va te faire perdre du temps. Mais, cependant, c'est ce que je dis à certains de mes athlètes qui ont la même réflexion que toi, franchement, les 5 minutes ou 10 minutes que tu vas perdre à ce moment-là, en vrai, vu que tu seras en sous-régime... ça vaut pas le coup de perdre trop de temps. Enfin, souvent, en fait, tout ça pour dire que si tu te mets en sur-régime, le temps que t'auras gagné, il
les
est
conséquences
possible
sont plus
que tu multiplies
que si
exactement
quelques secondes,
multiplie par
3
le temps que tu vas avoir gagné. Ouais. Donc c'est toujours délicat de dire ça parce qu'on se dit ouais, mais moi je veux être performant, je veux.
C'est en fait en vrai, une nouvelle fois.
Ouais, exactement. Et à nouveau hein, sur l'hydratation, c'est pas Seb Cornette qui le dit. Hein. Aujourd'hui, il y a assez de papiers. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, aujourd'hui, l'hyponatrémie fait plus de dégâts que la déshydratation. La surhydratation fait beaucoup plus de dégâts. Et ce que tu as l'air de nommer pourrait ressembler à ça.
Revenons à Vincent, justement, on passe d'un ultra à Vincent qui fait des formats un peu plus courts pour l'instant. Tu avais d'autres questions au-delà de la façon de t'entraîner et tout, apporter du renfort musculaire dans tes séances? Tu veux resonder Seb sur la façon de gérer l'événement aussi? Est-ce que toi aussi tu es anxieux comme ton frère d'ailleurs au départ d'une course?
Alors oui, parce que j'ai pas d'expérience, donc c'est l'inconnu. Enfin, aujourd'hui, à chaque fois, chaque nouvelle course est une nouvelle expérience que j'ai jamais faite avant. Donc il y a forcément une forme de. J'ai pas à dire anxiété, mais de dire d'appréhension, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai pas été trop ambitieux sur le format. Donc par rapport à ça, et la question, moi j'avais aussi une question potentiellement sur l'alimentation, parce que c'est des formats plus courts. Moi je suis plutôt aujourd'hui à faire de la boisson énergétique avec glucides, électrolytes mélangés.
tu fais tes cocktails quoi.
Non mais c'est un truc tout près là.
Okay, d'accord.
Si on peut citer des marques, voilà.
Tu peux.
Donc moi, je je me retrouve dans la marque Baou. J'ai essayé plein de marques différentes et globalement, au niveau digestif, ça passe. Voilà, j'ai pas de désordre gastrique.
Et t'as pris du gel sur marathon aussi.
Ouais, ouais, bah en fait, j'avais, ils font des petites flasques qu'on peut refermer, donc c'est plutôt pratique comme format plutôt que d'avoir le truc qu'on ouvre et qui coule dans la poche.
Ça, c'est sûr.
Et avec voilà une logique de faire à peu près en moyenne 60 grammes de glucides par heure.
Ok.
Donc en alternant entre liquide et gel compote là.
Ouais.
Et sur trail, j'ai continué là-dessus après sur des super grands formats quand on a fait les pouilles, on a fait ça en 7h30 je crois à peu près. Au bout d'un moment, le sucre. C'est plus compliqué quoi. Et du coup, je me dis voilà, est-ce qu'il faut pas que je varie avec autre chose ou que sur les ravitaux, tester les trucs sur les ravitaux. Enfin, j'écoute votre podcast où on dit voilà,
faut m'y éviter de tester le jour J.
Ouais, c'est ça. Donc, voilà, je suis plutôt à essayer d'être rigoureux et méthodique dans la préparation physique et d'alimentation.
Intégrer du sel.
Bah là, il y en a en fait dans la boisson que de Baou là. Et je ne sais pas du coup si, ça, voilà, si sur des formats plus longs, à quel moment il faudrait que j'imagine diversifier ou si tant que ça passe, je ne change rien. Quoi.
Bah déjà, dans les pouilles, je vais t'apprendre un truc, c'est que tu as fait ton premier ultra. Donc déjà, tu as déjà fait l'ultra, puisque tu as été pendant 7 heures en effort. Hein. L'ultra, ça commence à partir de 6 heures d'effort. Donc, tu as déjà fait ton premier ultra. Et effectivement, même si dans ta boisson, dans ton gel, il y a du sel, est-ce que tu as eu le goût salé? Toi, c'est encore différent. Donc, ne serait-ce que pour, toi, au niveau gustatif, varier un petit peu, ça pourrait être intéressant. La viande séchée, il y en a qui se font des petits club sandwich. Et c'est pour ça que, non, je ne suis pas super fan de tester sur un ravito si tu n'as jamais pris, le teste pas. Mais justement, dans tes sorties, quand tu prépares quelque chose qui est un peu plus long, ben, se préparer un petit club sandwich avec alors plutôt du pain complet et pas du pain blanc évidemment, et ou du jambon ou de la viande séchée pour avoir justement ce goût salé là. D'ailleurs, en parlant de viande séchée, il y a un trailer dont j'ai mangé le nom qui ne marche qu'à Coprotte et qui avait la viande séchée. Alors attention au mode et tout ça, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de varier.
Peut-être séchée,
à partir du moment où tu passes 5-6 heures à
l'estomac accroché quand même, la viande séchée pendant 6 heures, ouf. Ah ouais, là, s'entraîner. Là.
Ouais, je me rappelle quand même d'un ravito à l'UT4M en Chartreuse où c'était raviol et jambon cru.
Ça fait du bien.
Il était bien arrivé ce ravito.
Ah voilà, bah tu vois,
finalement,
mais parfois.
Ok.
Fallait pas que l'arrivée soit trop loin quand même.
C'est bon ça.
D'ailleurs, sur le 40 que tu fais là, sur l'UTCAM, c'est lequel?
C'est le Chartreuse, le dernier, en fait, qui termine à
Grenoble. Ok. Donc, il est pas mal aussi. Il fait 2008, c'est ça hein,
40, 2006, 2008. Ouais, ou 2008.
Ouais. Donc déjà, peut-être que ta question, c'était de dire comment je vais gérer. Déjà, dans ton entraînement, ce que j'ai oublié de dire, c'est mets des bâtons parce que tu vas en avoir besoin. Sur celui-là, parce qu'il y a quand même des parties bien, bien raides. Et l'idée, c'est de se dire, sur le premier tiers de course, vraiment, je pars en rando. Quoi. Tu vois, hein, je suis désolé, hein, les trailers, ils ne vont pas aimer que je dise ça, mais moi, je n'arrête pas de les chambrer. D'ailleurs, je suis avec un athlète élite en ce moment ici, là, et je l'ai chambré ce matin en lui disant que c'était un randonneur un peu
randonneur.
Rapide.
C'est bon, ça.
Et du coup, l'idée, c'est de se dire, le premier tiers, respecte la course et respecte-toi en partant. Si je parlais tout à l'heure sur les ultras, souvent, ça part trop vite. Ça part trop vite, de toute façon. Ceux qui partent le moins vite partent toujours 120 à 130% plus vite que leur vitesse moyenne. Donc, du coup, tu vois, ça, on part tous trop vite. Et encore plus sur un 40 qui est très montagneux quand même. Hein, la Chartreuse, là, celui que tu vas faire, il est quand même bien raide. Donc, c'est de partir en faisant ton travail avec les bâtons. Et même si tu es coincé sur un single, encore que là, il n'y en a pas... Enfin, là, il y a une grande partie sans que tu sois coincé. C'est de vraiment partir en sous-intensité en disant le premier tiers de ma course, je vais profiter de ce magnifique massif. Et puis à partir du moment où tu as passé le premier tiers de course, de toute façon, tu seras mis dans ton intensité et à partir de ce moment-là, on pourra dire que l'intensité sera respectée. Mais c'est vraiment, à nouveau, hein, je suis désolé, hein, je suis un peu quelqu'un qui va vous freiner, mais souvent, c'est la première des consignes pour avoir justement ce que rencontre Damien en course, c'est-à-dire c'est quand même beaucoup plus grisant de finir une course quand t'arrêtes pas de doubler,
plutôt que l'inverse. Bien finir, c'est toujours agréable, ça c'est sûr.
Ah, c'est sûr. Tu finis 49e en ayant perdu 10 places dans les derniers 10 km, tu finis 50e en ayant rattrapé 20 places, ben c'est pas du tout.
Et c'est pas la même expérience, bien sûr.
Exactement.
Bien raison,
et pourtant, il y en a un qui est fini devant l'autre. Exactement. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose à prendre en considération.
Tu seras bien à t'entraîner avec les bâtons à Poissy, moi je te vois bien comme ça.
C'était mon cadeau de Noël de mon frère.
Ah bah voilà.
Ça, c'est un beau cadeau, Damien, bien vu, t'avais bien ciblé. Il nous reste 3 minutes, les gars. Est-ce que vous avez encore des petites questions pour Seb pour profiter de sa présence et de ce rendez-vous? Damien, est-ce que tu as une question encore pour Seb?
Moi, en termes d'objectifs, mon prochain ultra, c'est fin septembre, c'est celui qui est à Nice, dans le Mercantour.
Okay.
Et j'ai un coup de chance, j'ai trouvé une course en Corse, en fait, à 70K, au mois de juillet, à Corté. Ouais, ça va être trop, je suis super impatient.
Cœur de la Corse, en plus.
Restonica.
Exactement.
Magnifique.
Apparemment. Pardon. Et donc, du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a des choses à tester là sur ce 70K pour éventuellement avoir plus de certitude par rapport à mon objectif principal.
Tu auras peut-être des conditions difficiles avec la chaleur.
Mais au niveau alimentation, par rapport à ce que vous disiez.
Tout ce qu'on a dit sur l'alimentation, ça serait le bon moment pour le tester, boire quand t'as soif et
partir doucement,
on a dit précédemment.
Boire quand j'ai faim.
Désolé, mais cette île, je la connais par cœur. J'ai tellement d'amis en Corse et j'ai une histoire particulière avec cette île. Et la Restonica Trail, je te l'annonce, malgré qu'elle soit plus courte en kilomètres que ton Mercantour, il est probable que tu passes pas loin du même temps. Que au Mercantour, parce que c'est, alors attends-toi à jeter tes chaussures quand tu arrives, parce que tu vas manger de la pierre, j'espère que t'aimes le caillou. C'est une super orga et tout, mais c'est une course très exigeante par son dénivelé, par sa technicité et par la météo qui est très souvent très très chaude.
Donc tu vas souffrir.
Ouais, on dirait.
Tu vas prendre du temps et prendre du plaisir dans cette magnifique vallée de la Restonica qui est exigeante, mais ô combien. Et puis les bénévoles sont juste extraordinaires. Enfin bref, j'ai un billet avec la Corse, mais tu vas te régaler. Mais bon. c'est effectivement le bon moyen, pas uniquement de tester, mais aussi de profiter. Et tu vas voir, ça va être long.
Vincent, est-ce que tu as une dernière question pour Seb?
Non, je pense que déjà, je repars avec plein de choses. Donc
Avec tes séances, avec tes bâtons, tes périodes de chaise entre tes exercices et tes fractionnés. Voilà, tu as plein d'indications pour pouvoir mener tout ça à bien. Les gars, c'était un régal de vous recevoir tous les deux. Une histoire assez sympa, des faux jumeaux avec nous dans RMC Running. Merci Vincent, merci Damien. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à Seb Cornette qui a été excellent comme d'habitude. Merci Seb d'avoir été là. Bravo
merci,
pour les conseils.
Merci beaucoup.
Et si vous voulez bénéficier des conseils de Seb ou de Johan Durand pour les coureurs sur route, l'adresse mail suivante, podcast@rmcrunning.com. Merci à tous et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.